voix nue. Cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Yolande Moreau. Ce soir, ce sentiment d'illégitimité m'amuse.
Bonsoir Yolande Moreau.
Bonsoir.
Dernier épisode ce soir de notre série d'entretiens enregistré chez vous, dans votre maison normande. Nous n'avons évidemment pas du tout épuisé hier le sujet de votre parcours cinématographique, loin s'en faut. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez tourné dans environ 80 films, dont vos deux longs métrages de fiction dont nous avons longuement parlé hier. Et vous avez aussi tourné un troisième film, un documentaire pour Arte sur la situation des migrants dans ce qu'on appelait la jungle de Calais. Un film d'une demi-heure qui s'intitule « Nulle part en France » en 2016. Arte vous a proposé de faire donc ce film sur les migrants de Calais et de Grande-Synthe. C'est le producteur d'Arte Reportage, Philippe Brachet, qui vous a contacté pour vous passer commande, si on peut dire. Mais au début, vous n'étiez pas sûre de vouloir le faire. Quels doutes vous ont traversé, Yolande Moreau?
Je me suis dit qu'il y avait des gens doués pour faire des documentaires. Et que... Après, ce que me disait Philippe Brachet, justement, il dit oui, mais c'est justement, on voudrait sortir de gens habitués à faire des documentaires et d'avoir un regard. Après, je me suis dit, puisqu'on me donne carte blanche, allons-y avec une carte blanche. Et on voit tellement les mêmes choses, enfin en tout cas aux informations, aux journaux télévisés, c'est-à-dire là aussi, les passeurs ignobles qui aident les gens, qu'il faut arrêter ça, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Enfin, j'en passe de tous les clichés qu'on peut avoir sur les migrants. C'était un thème qui me... Enfin, en tout cas, quelque chose qui me tenait à cœur. Et du coup, mais jusqu'au dernier moment, j'ai failli dire non, en me disant...
Ce qui vous faisait peur, c'est d'arriver comme ça, sur ce terrain que vous ne connaissiez pas avec
déjà une caméra. D'arriver avec une caméra, là... Dans un camp de migrants, moi, je trouve ça violent. Enfin, d'ailleurs, à un moment donné, on se fait canarder. Et je comprends leur colère. Il y avait aussi, on a vu des choses quand même ignobles. On a vu des gens avec des caméras qui ouvraient les tirettes des tentes et qui mettaient leur caméra comme ça, pour filmer. Voilà, après, je regrette pas de l'avoir fait. Puis on s'est concentré sur Aoré qui venait... Voilà, qui a pu raconter son parcours.
Depuis le Kurdistan.
Avec qui je suis restée en contact. Enfin, il a réussi à passer en Angleterre. Mais oui, c'était une belle aventure humaine, en fait.
Ça donne effectivement un très beau documentaire. Vous tenez très en distance, justement, par rapport, en opposition à ce que vous disiez, de ce que vous aviez vu de choquant par rapport à certaines démarches.
J'ai beaucoup été aidée par les mots, d'abord, de
oui,
Laurent Godet.
Voilà.
Je crois qu'il écrivait très bien sur les choses. Et puis, on a abordé les choses de manière en parlant du vent, des éléments, du parcours, la distance qui reste à parcourir, parce qu'il faut être courageux pour partir... Pour migrer, pour aller ailleurs. Il faut être très courageux pour faire ça. Oh, c'est marrant, les chiens ne font pas des chats, mais ma petite fille s'occupe en Belgique de l'accueil des... Elle vient, c'est son premier travail, de l'accueil des jeunes migrants qui arrivent en Belgique.
Elle a vu votre film, votre petite fille?
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Elle l'a justement revue, parce que avec son travail, tu vois, mais... Enfin, elle me parle sur son travail, elle parle, c'est beaucoup des jeunes afghans dont elle s'occupe, alors ça lui a donné envie de voir des documentaires, je trouve, sur ce qui s'est passé là-bas avant. Enfin, pour revenir au documentaire, moi j'étais aidée par l'équipe, les paroles de Laurent Godet ont vraiment beaucoup nourri ce film.
Vous lisez,
parce qu'il écrit très très bien sur les choses.
Vous lisez en effet un de ses textes, qu'on vous entend en voix off, et c'est en effet très,
oui,
très, très beau. C'est vous qui l'avez choisi, Laurent Godet, pour qu'il vienne,
oui,
écrire?
Oui, j'avais vu des choses qu'il avait fait avant, je crois, pour une bande dessinée. Et donc j'avais demandé, parce que chaque fois, ce travail pour Arte, c'est fait en collaboration avec un écrivain et un dessinateur aussi qui fait des dessins. C'est un projet sur... Et j'avais envie de Laurent Godet en ayant vu ses textes. Je me dis, il est très... Il parle bien de ces choses, il trouve les mots pour ces choses-là, il arrive à mettre des images, ces mots sont très très forts. Du coup, j'ai dévoré tous ses bouquins.
Et lui, est-ce qu'il vous a suivi aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'il pouvait s'inspirer des images que vous tourniez pour écrire? Comment ça se faisait, cette collaboration, concrètement?
Alors, il y avait le photographe aussi, qui est un Belge, Gaël Turin, aussi. Et une fois, on a été visiter ensemble le camp des migrants, qui était encore à Grande-Synthe. Et Gaël faisait son truc, il prenait ses photos et tout ça. On cherchait par quel... Moi, j'étais accompagnée de une chef opératrice et puis quelqu'un qui traduisait aussi. Donc, les premières fois, quand on était en repérage, on a rencontré beaucoup de gens parce qu'on a peu de jours pour le faire. Donc, tout à coup, il faut se centrer. Mais c'est sûr que, par exemple, il y a certaines choses qu'il a écrites que finalement parfois j'ai pu coller des images dessus, mais aussi je lui ai demandé d'écrire sur le feu, sur les gens qui se frottent les mains autour du feu, les rassemblements, sur le vent, les tentes qui claquent et tout ça. Donc il m'a écrit plein de choses. J'attendais ses poèmes avec une impatience.
Vous le dites vous-même dans quelques interviews, Yolande Moreau, vous n'êtes pas une militante. Mais quand on regarde votre filmographie, autant en tant qu'actrice qu'en tant que réalisatrice, vous incarnez, vous montrez beaucoup de personnes qui vivent une vie dure, qui sont en insécurité dans la vie, qui sont fragiles, qui se battent. Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui, du haut de ces 80 films, ou plus ou moins, que vous avez construit cette mosaïque-là, cette galerie de personnages-là?
Je trouve ça toujours délicat de dire « je ne suis pas militante, je me sens en même temps... comment dire, mais je ne suis pas active militante, mais je trouve que dans beaucoup de films, finalement, je m'aventure sur un terrain difficile pour moi, au glissant, mais je trouve que beaucoup de films, quelque part, sont politiques parce que ils racontent la manière de vivre des gens entre eux. Et à partir de ce moment-là, je trouve ça politique. Et même dans le dernier que je fais, c'est comme un conte. Je suis sûre que c'est, il y a quelque chose de politique quelque part. Parce que ça raconte la manière, ça parle des gens. La politique, au départ, ça devrait être ça. C'est ça, en principe.
C'est ce qui vous a attiré dans le cinéma, c'est raconter la vie des gens, des autres.
Je pense qu'au départ, de faire ce métier, c'est ce qui m'inspirait. Je pense qu'il y a eu les mots, tout ça, ce qu'on a parlé hier, les mots. Le désir de s'échapper dans un univers artistique, mais très vite. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le documentaire, quelque part, c'est pour moi le sommet. C'est raconté, c'est là qu'on est le plus proche des gens, ou le plus proche. Encore quand on parle de nulle part en France, je pouvais pas parler, parce que les paroles de Laurent Godet sont très poétiques pour dire des choses très dures et très vraies. Les images le peuvent aussi. On peut raconter ce camp de migrants. D'ailleurs, les conditions maintenant, c'est presque pire parce que ils n'ont pas le droit de jouer, on n'a pas le droit de les nourrir. C'est incroyable. Maintenant, à l'heure actuelle, quoi, qu'il n'y ait pas plus de... Je sais pas, de... Que ce soit comme ça, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont été chassés il y a quelques jours, là. C'est innommable, quoi. On pourrait ne pas le croire en se disant, mais on est au XXe siècle. Comment ça se fait, quoi?
Vous semblez encore très habité par les histoires que vous avez tournées dans ce documentaire. Et en tout cas, l'actualité vous sans doute ravive des souvenirs de tournage, des rencontres pendant ce tournage. Est-ce que vous envisageriez de refaire un documentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, vous a plu?
J'y ai pensé à un moment donné. Je me suis dit, tiens, c'est une voie qui m'intéresse. Il y a eu à l'époque, je ne l'ai pas fait, parce qu'il faut réagir vite aussi. Hein. Justement, quand les Indiens ont refusé que le pipeline passe par leur terre, parce que pour pas déranger leurs ancêtres, j'ai dit c'est fabuleux comme thème. Parce qu'il y a d'un côté l'argent, roi et tout ça, faire passer les pipelines, et puis cet argument des Indiens, non pas sur la tombe de nos ancêtres, qui est un argument, voilà, qu'on pourrait ne plus entendre à l'heure actuelle, mais je le trouvais formidable. Et alors il y a eu la révolte des Indiens qui se sont regroupés, etc., qui étaient en guerre depuis. J'ai trouvé ça fabuleux ce moment, il y a quelques années de ça. Bon, je ne l'ai pas fait.
Vous aviez eu envie de partir et puis finalement...
Oui, après, il faut aller vite, il faut rebondir, il faut mettre sur pied. Je ne l'ai pas fait.
Le temps du cinéma vous convient mieux, du cinéma de fiction?
Oui, et puis il y a eu autre chose. Je fais un spectacle sur Prévert. Enfin, ouais. Je fais quand même des choses qui me plaisent.
Parmi toute cette galerie de personnages que vous avez incarnés, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué? Alors bon, on parlait de Séraphine hier soir, j'imagine qu'il fait partie des rôles qui ont été importants pour vous, mais est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a appris quelque chose, qui vous a révélé quelque chose de vous-même?
Je crois qu'à travers un peu tous les personnages, des fois, après, surtout l'expérience qu'on vit avec au moment même, du tournage aussi. Mais... Je réfléchis. Non, je ne peux pas en parler comme ça, plutôt d'une manière générale, oui. Puis le tournage, c'est comme des parenthèses, des histoires très fortes qui se passent avec l'équipe, avec les réalisateurs. Ou parfois dures aussi, mais en général quand même plutôt agréable. Et c'est comme des parenthèses, donc chaque parenthèse à son histoire, et oui, qui... Après, pour moi aussi, je voulais revenir là-dessus, mais jouer, je veux souligner, jouer, c'est un jeu aussi. On passe, on gagne sa vie en jouant, c'est un jeu en s'immisçant dans comme ça, dans la personnalité de quelqu'un d'autre. C'est toujours une partie de soi, une partie de l'autre. C'est un petit mix. C'est quand même... Ça reste excitant.
C'est risqué aussi?
Risqué, on prend pas vraiment beaucoup de risques. Hein. Je trouve pas, je suis pas... Parce que des fois... Non, moi, une fois que une fois que j'ai joué, je laisse mes habits au vestiaire.
Yolande Moreau, vous vous êtes fait beaucoup de procès en illégitimité ces dernières années. Lorsque j'ai lu des interviews de vous, vous parliez beaucoup de ce sentiment-là d'illégitimité tout au long de votre carrière. Est-ce que de vous dire que toute cette vie vécue avant de monter sur les planches, tous ces métiers que vous avez approchés avant de monter sur les planches et sur un plateau de cinéma, vous ne vous ont pas donné justement des armes pour être une actrice, d'avoir les gestes, d'avoir l'expérience de vie? Est-ce que ça vous a jamais aidé à vous débarrasser de ce sentiment d'illégitimité, justement?
Mais ce sentiment d'illégitimité, en même temps, m'amuse et me donne, je me dis, bah, pourquoi pas moi, me donne aussi, ça m'amuse au fait de me dire, hop, si on y va. C'est quand même aussi... parce qu'au début, par exemple, le premier film avec Gilles Porte, je me disais, mais je reçois beaucoup de scénarios quand même que je trouve assez mauvais. Je reçois quand même. Et je me dis, mais ça, je peux faire aussi. Je me dis ça aussi. Et ça remonte à ce vieux sentiment dont je parlais. Mais j'ai, parce que à 20 ans, je me disais, mais je me dis, je voudrais un peu jouer avec, comme on dit en Belgique. Je voudrais y aller. Et y aller, c'est tout à coup sauter le pas et faire les choses comme ça. Quand je dis légitime, je sais pas trop comment je l'ai fait. En vieillissant en même temps, j'ose de plus en plus y aller, mais sans certitude et quand même sans certitude, non. En ayant conscience aussi qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent m'aider, le prochain film, je veux de l'aide du chef opérateur, je veux de l'aide, ma fille va m'aider, les scripts, voilà.
Vous vous entourez, quoi, de personnes sûres.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Vous parlez de l'âge qui vous aide à vous libérer, ou qui vous aide à jouer de ce sentiment d'illégitimité pour mieux le contourner. Normalement, le cliché, en tout cas, voilà, moi je me fie à ce cliché-là, c'est que les actrices vieillissant ont moins confiance, déplorent qu'on leur propose moins de rôles. Vous, c'est l'inverse, j'ai l'impression, vous vous libérez en vieillissant.
Je sais pas si c'est l'inverse, mais de toute façon, moi j'ai jamais été un petit canon, donc ça doit être moins dur que je pense que pour des actrices qui ont été, par exemple, très belles, d'avoir des possibilités, puis que les choses diminuent avec l'âge. C'est pas mon cas, c'est pas ce créneau-là pour moi. Mais alors, quand je parlais tout à l'heure de dire je veux jouer avec, je me suis rappelé des choses de ma première primaire. Je reviens à l'enfance. Mais je me rappelle, j'étais très lente. Et un peu à côté de la plaque, déjà. Je rêvais beaucoup, c'était toujours en retard, ou comme, enfin, pas en temps et en heure, quoi. Et en première primaire, donc là, je ne sais pas, vous appelez ça CP, je crois. Donc 7-8 ans, on devait faire des statuettes, couler du plâtre pour faire la crèche de l'enfant Jésus, et après les peindre une fois que c'était sec et tout. Et ça me fascinait parce que j'aime bien tout ça. J'aime bien faire chipoter le plâtre et tout. Mais on devait d'abord écrire le journal de classe qui est au tableau. Eh bien, croyez-moi, je suis restée toute l'après-midi devant mon journal de classe en train de rêver, de voir les autres qui avaient déjà les mains dans le plâtre. Et la cloche a sonné. L'institutrice a dû écrire le journal de classe à ma place. Parce que je rêvais sur les autres, j'y allais pas. Alors que je voulais être de l'autre côté. Et cette image m'a poursuivie. Parce que j'avais l'impression de vouloir jouer avec les autres et d'être tout le temps en train de regarder. Voilà. Et faire mon métier, le théâtre, j'ai quand même pu jouer. j'ai pu. Et finalement, j'en vis. Et socialement, j'ai trouvé ma place aussi en faisant ça. C'est important parce que tout ça, j'espère répondre à cette question d'illégitimité qui était posée au départ. Maintenant, je n'ai pas fait d'études, de réalisation, de lumière, il y a plein d'inconnus. C'est comme le jardin, voilà. On ne sait pas.
Un univers à découvrir encore.
Oui.
Encore. Vous avez gagné 13 récompenses tout au long de votre carrière, Yolande Moreau, dont 2 Césars de la meilleure actrice, nous le disions hier soir. Elles ne sont pas si nombreuses, les actrices, à pouvoir collectionner 2 Césars déjà. Ces récompenses et cette reconnaissance de la profession ne vous ont pas aidé à apaiser ce sentiment que vous aviez exprimé ces dernières années d'illégitimité ?
Aussi, quand même. Si, quand même. Mais en même temps, au fond de soi, je ne sais pas vraiment, mais en apparence certain. Et puis, et tout à coup, ouais, bah, je sais pas, j'y vais, quoi. Je sais pas, en tout cas, ça m'a donné le luxe de pouvoir choisir des choses et faire des choses que j'aime. Ça, c'est sûr. Dans ce sens-là, je trouve que j'ai eu de la chance parce que je connais beaucoup de gens très doués et puis il s'agit tellement de hasard de rencontre, je trouve les parcours qui se font, j'ai quand même eu du pot, quoi. J'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment, et je connais des gens très doués qui n'ont pas spécialement cette chance-là, qui ont beaucoup de talent. Hein.
Est-ce qu'il y a des rencontres justement que vous n'avez pas encore faites et que vous aimeriez faire, des rencontres de cinéma? Moi, quand je vous vois jouer, quand je vois l'univers dans lequel vous aimez faire évoluer vos films, je pense à Bruno Dumont et je me demande pourquoi la rencontre ne s'est pas encore faite.
Alors, on s'est rencontrés une fois à un festival à La Rochelle. Mais j'aime bien, moi, j'aime surtout les films qu'il a fait avec les acteurs non professionnels, je trouve particulièrement réussis. Chaque fois, il arrive à... Parce que j'étais une inconditionnelle, quoi. Je crois que j'ai moins aimé... Des fois, quand il a pris des acteurs professionnels, pour moi, c'était moins évident. Et c'était une autre manière de raconter. Or que la vie de Jésus, tous ces trucs-là, j'adorais ça. Mais je sais pas si... Oui, faut que je... Oh, voilà.
Sinon, il y a d'autres rencontres que vous aimeriez faire, des réalisateurs avec qui vous aimeriez travailler ou des acteurs?
Oui, sans doute. Je demande à voir.
Voilà. Vous ne citerez pas de nom.
Voilà, oui. Mais je trouve toujours agréable aussi la fidélité qu'on a. Par exemple, Dominique Cabrera, j'ai un projet avec elle. Et c'est quelqu'un de avec qui j'ai aimé travailler. De l'Épine Kervin, je retourne avec eux régulièrement. J'aime bien la fidélité aussi. Martin Provost, j'ai retrouvé, tourné aussi.
Vous avez tourné 3 films avec lui?
Oui.
Pareil avec Carverne et Delépine.
Oui.
3, 4.
Puis il y a des amitiés qui naissent aussi. Moi, Noémie Lvovsky, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et puis, je suis contente, elle a accepté de jouer dans mon film. C'est une actrice formidable. Il y a quand même des liens qui se font comme ça. Que ce soit réalisateur ou comédien ou d'autres d'ailleurs, ou d'équipe, des gens dans l'équipe. Férouz, Maki, Férouz Zafour, plein de gens.
J'ai pu lire ici et là que, vous me l'aviez dit d'ailleurs hier soir, en ce qui concerne Quand la mer monte, comment vous êtes arrivé sur ce projet, vous vous êtes emparé du personnage qu'avait commencé à imaginer Gilles Porte. Vous aviez dit non, elle n'écume pas les salles minables pour courir le cacheton.
J'ai commencé à écrire du coup.
Voilà.
C'est à l'écriture aussi qui a fait que...
Que vous vous êtes emparé du personnage. Et j'ai pu lire aussi que dans Mammouth, la Catherine Pilardos, donc la que vous interprétez, la femme de Serge, interprétée par Gérard Depardieu, n'était pas aussi intense et aussi en relief sur le papier que vous ne l'avez rendue à l'écran. Vous aviez manifesté votre désir de ne pas en faire une mémère un peu grognon.
Ah, ça s'est pas passé comme ça.
D'accord.
En fait, en lisant le scénario, ils le savent, ça les fait marrer, mais j'ai eu un espèce de coup de sang féministe parce que je les connais, c'est deux rêveurs de l'Épine et Kervin, je les adore, c'est deux, et l'histoire, je me dis, c'est ça fait pour rêver des hommes, et en fait l'image de la femme, c'est celle qui râle parce que il ramène pas assez de pognon, celle qui râle parce qu'il a pas ses papiers, Et je me dis, mais merde, j'ai eu un coup de sang féministe et j'ai pas voulu le faire. Ah, ça c'est drôle. Du coup, ils en ont parlé à Gérard Depardieu, qui un soir m'appelle ici. Évidemment, je reçois un appel de Gérard Depardieu, je suis liquéfié, je retrouve, j'ai 4 ans et demi. Elle me dit, oh, c'est Gérard. J'ai dit, bonjour, tu as une petite voix, tu dis, je suis contente que tu fasses le film. Je me dis, putain, j'avais dit que je ne le faisais pas, tu vois. Et j'ai dit, oui, tu vois, 4 ans et demi. Après, j'ai raccroché et je dis à mon mari, mais texto. Je dis, putain, ils envoient le gros charbon. J'ai dit texto, c'est parce que je n'étais pas dupe. Et eux, ils étaient tous les... Parce que de l'épine et Carvin, ils étaient derrière, écroulés de rire, évidemment, avec ma petite voix... Oui, tu vois, de 4 ans et demi. Après, j'ai jamais regretté, parce que je trouve le film vachement bien.
Mais vous m'avez donné...
j'ai vraiment piqué un coup de sang féministe, là. Je me dis, mais pourquoi la femme est celle qui râle pour l'argent, pour les papiers, ou parce qu'il pisse sur la lunette, quoi. Après, j'ai pas regardé le film formidable, et Gérard Depardieu, tout à fait formidable. Moi, j'ai des scènes qui me restent de ce film. J'adore quand il y a ses longs cheveux dans l'eau, sa moto. Il me reste plein d'images de ce film.
En tout cas, vous formez un couple de cinéma magnifique.
Alors, j'ai aussi failli piquer un bon fou rire. Parce que ça va assez vite, on tourne vite. Et Depardieu aussi, il ne va pas faire 36 000 prises. Et j'avais une scène où j'étais en train de m'épiler les bras avec de la mousse à raser. Et il revient et on doit s'embrasser avec mon bras qui a plein de mousse. Ça fait une idée vraiment de Delépine et Kerverne. Et donc, on s'embrasse, mais on a tous les deux un gros ventre. Et donc, on s'embrasse, mais avec notre gros ventre, pour s'embrasser, ça prend un peu de place quand même. Et moi, déjà, la nervosité plus nos gros ventres, je suis écroulé de rire. Et donc, prise ratée, parce que je rigole. Et donc, on recommence. Je me dis, reprends-toi, parce qu'il n'y aura pas trois prises, quoi. Donc, la deuxième, il faut qu'elle soit bonne. Et donc, mais quand je regarde le film, je vois l'œil de la blague dans mon regard. Je le vois. Je vois que je ris dans mes yeux. Mais j'éclate pas de rire, mais mes yeux rient. Mais quand même, Depardieu, quel acteur. Quel acteur.
Eh bien, merci beaucoup, Yolande Moreau.
Mais merci à vous.
Fin de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Yolande Moreau. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son François Rivalan, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.